jusqu'à 9h30.
Jusqu'à 9h30.
Vous écoutez Que la Mauricie se lève.
Que la Mauricie se lève.
Catherine le matin. Voici Catherine Gaudreau.
En fait, je vous ramène à vendredi et c'est là où Marc-Antoine et moi, on discutait un petit peu de la suite des choses et comment on préparait le show de lundi. Parce que vendredi, on dit que les enquêteurs de police croient que l'ex-employé de Desjardins, qui est dans leur mire, concernant bien sûr le vol d'identité, aurait utilisé le dark web pour communiquer avec ceux qui étaient intéressés à acheter les renseignements volés. Alors, on s'est dit, on va se trouver quelqu'un qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Il est expert en sécurité informatique, Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Bonjour, Jean-Philippe.
Bon matin.
Bonjour, Jean-Philippe. Alors, le dark web, on entend ça souvent. Première question, j'entends souvent deux choses, le dark web ou le deep web. Est-ce que c'est la même chose et qu'est-ce que c'est?
C'est pas exactement la même chose. Pour faire ça simple, en fait, le deep web, là, c'est tout ce qui est pas indexé par les engins de recherche. Donc, ça peut être bien des choses. Ça peut être, mettons, des intranets d'entreprise, des pages générées dynamiquement, des sites web qui sont pas atteignables à cause d'un problème de routage sur Internet. Peu importe, c'est tout ce qui est pas indexé par les engins de recherche. Ça, c'est le deep web.
Okay.
Le darknet, en fait, ce que c'est, on devrait dire, c'est des darknets parce que, en fait, c'est des réseaux parallèles au web standard. On peut y accéder uniquement via un logiciel quelconque. Puis généralement, c'est des réseaux qui ont une emphase particulière sur soit la vie privée, le chiffrement, l'anonymat ou ce genre de trucs-là.
OK. Je sais qu'entre autres, on donne souvent l'exemple du navigateur Tor, T-O-R. Ouais. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est non, pas du tout. C'est probablement le meilleur exemple d'un darknet, si on veut, parce que ça en est un parmi d'autres, mais c'est celui qui est le plus populaire, puis c'est celui dans cette histoire-ci qui nous concerne, parce que c'est probablement celui-là, c'est ce réseau-là qui est impliqué, si on veut, d'une certaine manière, derrière l'histoire de Desjardins.
OK. Et donc, quand je regardais, là, parce que dans mes recherches en fin de semaine, j'essayais de comprendre, et c'est pour ça qu'on vous a ce matin pour essayer de nous le vulgariser, parce qu'on expliquait comment le navigateur Tor, entre autres, fonctionne. Donc, avec le routage, on dit le routage par oignon. Donc, les fragments de communication de chaque réseau sont envoyés d'un nœud, d'un serveur. Si on le vulgarise, comment ça peut être plus simple que ce que je viens de dire?
Ben, en fait, c'est que chaque communication sur le réseau, mettons, à partir de notre ordinateur vers un site quelconque, pour justement mettre l'emphase sur l'anonymat, c'est qu'il passe par un circuit qui est composé de plusieurs nœuds, puis chaque nœud de ce circuit-là, à chaque fois, est généré de manière aléatoire. Ça veut dire que votre communication, au lieu de passer par le point le plus court, mettons, sur Internet standard, si on veut, là, il va passer par, mettons, la Suisse, après ça, va être dirigé en Allemagne, après ça, va repasser par le Botswana. Exemple, c'est ça. Enfin, chaque nœud est constitué de nœuds opérés par les personnes sur le réseau Tor, par des bénévoles, en fait, et à chaque itération, donc à chaque nœud, ont une couche de chiffrement qui est rajoutée. Donc, okay. En gros, c'est à peu près ça. C'est dans le fond, c'est que le chemin parcouru pour chaque demande sur ce réseau-là est aléatoire et chiffré.
OK. Mais donc, ça veut dire que moi, quand moi je vais sur le web normal, donc que j'utilise Safari, Chrome, peu importe, dans le fond, je ne sais pas exactement par quel chemin ça passe, mais est-ce que ça passe quoi? Par le chemin le plus court et le chemin le plus accessible?
Ben, ça dépend, en fait. Il y a des manières de savoir par quel chemin ça passe, avec des outils un petit peu plus techniques. Donc, c'est un aspect de prévisibilité sur le web standard, ce qui n'est pas le cas sur Tor, en fait, justement. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont construit ça. Puis, il faut comprendre, hein, à la base, Tor, ça n'a pas été créé comme un réseau de criminels. C'est vraiment, le but premier, ça a été vraiment de permettre, mettons, principalement à des journalistes, à des militants, mettons, des personnes qui sont actives dans des pays avec un gouvernement très répressif, ce genre de personnes-là, de pouvoir communiquer de manière sécuritaire, anonyme et chiffrée.
OK.
Mais donc, ça, c'est le but premier. Là,
OK. Qu'est-ce qui fait, parce que lorsqu'on parle du dark web, on dit que c'est, dans le fond, c'est pour garder l'anonymat. Parce que, de ce que j'ai compris, il y a de tout là-dessus. Là. Il y a des armes illégales, il y a de la pornographie juvénile, il y a de tout. Mais en même temps, Jean-Philippe, on dit que c'est anonyme, mais qu'est-ce qui fait que la GRC ou peu importe le FBI retrace quand même des gens là-dessus?
Une panoplie de manières quand même de briser le chiffrement ou l'anonymat sur ces réseaux-là, particulièrement Tor. Le navigateur Tor, à la base, est un clone, si on veut, du furteur Firefox, qui lui-même a connu ses problèmes de sécurité au fil du temps. Donc, il y a des vulnérabilités qui existent, qui sont des fois exploitées. des fois, il y a des firmes en sécurité informatique qui vont développer des ce qu'on appelle des exploits pour ces vulnérabilités-là. Ils vont les revendre par la suite aux plus offrants pour que justement quelqu'un puisse exploiter des failles non connues dans les logiciels. Et c'est arrivé que les forces de police ont acheté dans le passé de ces exploits-là. Donc, c'est déjà arrivé, mettons, pour le FBI, avec connaissance d'exploitation de vulnérabilité sur le browser Tor, et ils n'ont pas voulu dire c'était quoi exactement dans le cours d'un procès contre un pédophile, justement, pour pas que ça affecte leur capacité dans le fond de déploiement futur. Ils voulaient pas dire comment ils ont fait pour le poignet, puis à cause de ça, ben le procès a comme tombé à l'eau. Okay. Donc, c'est sûr que c'est un peu touché, là. On se retrouve à essayer de poigner des pédophiles avec. En rendant en cours, on peut pas déployer nos méthodes, puis à cause de ça, ben le procès tombe à l'eau.
Donc, OK. Mais donc, Jean-Philippe...
C'est une des méthodes qu'on peut faire pour désanonymiser quelqu'un.
OK. Mais donc, l'utilisateur moyen, là, mettons, je vais le personnaliser, mettons, moi, là, la personne moyenne qui est sur le web, qui connaît pas ça du tout, là, le dark web, mettons que je me ramassais sur Tor. Est-ce qu'automatiquement, je suis, entre guillemets, je suis watché, je m'excuse de le dire comme ça, mais est-ce que je suis...
Non,
pas du tout?
Non, pas du tout. Ça, okay. ça c'est une image qu'il ne faut pas colporter.
Non,
là,
OK. Non, c'est pour ça que je vous la pose, la question.
Oui, non, je comprends. Écoutez, je réitère, là, vraiment, là, le but de Tor, c'est de permettre d'avoir un canal de communication chiffré et anonyme le plus possible. Et ça, je crois qu'en 2019, c'est plus que pertinent. Moi, je suis un fan là, de l'organisation puis du réseau puis de ses capacités techniques. C'est malheureux que ça soit utilisé à mauvais escient. C'est un peu inévitable aussi. Mais à la base, il n'y a pas de tracking qui est fait automatiquement dès qu'on... On va sur le Darknet là, ou ce genre de truc-là. Donc, c'est disponible à tous. Tout le monde peut installer le Furteur Tor. On peut aller sur le web standard. On peut aller sur des sites normaux sur ce réseau-là tout en utilisant les capacités de chiffrement d'anonymat de Tor. On peut aussi aller sur ce qu'on appelle les points Onion, les sites qui existent uniquement sur Tor. Si généralement, il y a beaucoup de sites là-dedans que c'est des marchés où on peut acheter justement malheureusement des trucs illégaux comme des faux passeports, de la drogue, des armes, ce genre de trucs-là.
Okay. Jean-Philippe, j'imagine que c'est dur de savoir combien de gens sont sur le dark web. Il ne doit pas avoir de chiffres officiels, j'imagine.
Il y a des chiffres officiels, il y a des métriques générées par le projet Tor, justement. Mais c'est en effet très difficile à jauger exactement. Je ne les ai pas devant moi, mais aux dernières nouvelles, il y a quelque chose comme 7000 opérateurs de nœuds Tor, donc des bénévoles un peu partout dans le monde. Et vraiment, le nombre de sites fluctue énormément, là, c'est le nombre d'utilisateurs, mais on parle de maximum, je pense qu'un pic maximum, c'est comme 2 millions de personnes là, sous toute réserve. Là. C'est beaucoup moins, évidemment, que le web standard, mais c'est quand même non négligeable. Les gens, ils vont généralement selon leurs besoins, ils sont pas tout le temps connectés à Tor. Donc, c'est très, très dur de jauger exactement la popularité d'un tel réseau, mais c'est non négligeable quand même.
OK, bien, un gros merci, Jean-Philippe, d'avoir démêlé ça pour nous ce matin.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui est expert en sécurité.